Ça passe à la télé ?
Pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Oh non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout.
Ah, ça va passer à la radio ?
OTO-RADIO, Autoradio.
Quelques questions sur plus précises sur les points.
Je rappelle que Jean-Pierre Bedeil est éditorialiste à la Dépêche du Midi, et donc c'est un journaliste qui parle du système d'information avant d'être un historien.
Moi, en vous écoutant, je pense beaucoup au livre de Burnies, Propaganda, qui est plus que jamais d'actualité. Enfin, ce qu'il a mis au point, c'est-à-dire comment manipuler les masses, c'est... Je me demande si un jour, effectivement, on a eu des véritables...
Informations.
Information, et qu'est-ce que ça veut dire? On a une information, maintenant il nous appartient à nous d'en faire quelque chose. Et c'est vrai que je passe beaucoup, il y a un texte qui m'aide énormément, c'est le texte de la Boétie de la servitude volontaire. Je veux dire, c'est pas nouveau, dans les cathédrales, on peignait, c'est de servir le but que le journal aujourd'hui. Les gens ne savaient pas lire, mais ils voyaient des images. Maintenant, on parle du principe que les gens sont idiots, qu'il y a, disons, je ne sais pas combien de pourcentage de gens qui ne liront pas, les journaux gratuits, alors là, ça accentue encore plus le phénomène. Donc, c'est plus cette question de comment prendre conscience que ça nous appartient d'être informés aussi, qu'on ne peut pas attendre, enfin, développer l'esprit critique des gens, autrement dit.
Oui, mais il faut que les gens aussi y mettent un peu du leur. Je veux dire, moi j'ai décrit un système, bon, comment ça marche de l'intérieur, les télévisions, les pressions économiques, les pressions politiques. Bon, parce que les gens sont pas forcés de savoir aussi comment ça marche de l'intérieur. Je vais prendre juste un exemple aussi qui, à mon avis, est très significatif aussi de l'évolution des tendances. Et après, je répondrai à votre question. En 2001, je crois, Jospin est interviewé, journal de France 2, par Claude Sérillon. Bon, interview classique du Premier ministre. Bon. Et Claude Sérillon fait son travail, pose des questions qui, sans être agressives, sont assez pertinentes, sont assez quand même... Bon. Et Jospin sort de cette interview très mécontent en disant... c'est fini, je ne remettrai jamais plus les pieds sur le plateau d'un journal de France 2. Du coup, problème à la direction de la chaîne. C'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est embêtant, parce que si on n'a plus de Premier ministre de temps en temps sur le journal de France 2, il va aller automatiquement sur TF1. Puis nous, on va perdre l'audience. Si on perd de l'audience, on perd de l'audimat. Si on perd de l'audimat, on perd du fric chez les annonceurs. Donc voilà comment fonctionne la télé maintenant. Bon. Sauf que personne ne l'explique, ça. Les gens, ils n'auront pas vu Jospin même pendant un an sur le plateau de France 2, mais finalement, ça ne les aura pas énormément marqués. Mais là, on se trouve face à un problème de poids des politiques, qui n'est plus censure, ceci, cela, mais... Si vous m'emmerdez, je viens plus, quoi. C'est une autre manière de faire pression sur la chaîne. Bon, alors, ce que vous dites, c'est pour ça que, bon, moi aussi, j'ai fait ce livre pour expliquer comment ça marche, parce que les gens ne savent pas ça. Mais effectivement, les gens aussi peuvent s'informer. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter Gala toutes les semaines, on peut acheter d'autres journaux. On explique davantage les choses que ça. Moi, je pense aussi que s'il y a un affaiblissement de la démocratie, c'est parce que les gens aussi le veulent bien. Je veux dire, on peut aller voter aussi un jour de vote. On n'est pas obligé de ne pas aller voter. Ou si on veut partir à la campagne, les bureaux de vote sont ouverts le matin de bonne heure, on peut aller voter à 8h et partir. On n'est pas obligé d'être resté cantonné chez soi parce qu'il y a un jour de vote pour voter. Bon, on peut voter. On peut. Il y a des journaux, comme je le disais, le pluralisme existe. Vous pouvez acheter Charlie Hebdo, Le Figaro, La Croix. Bon, encore faut-il que les gens veuillent le faire. Bon, moi je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui sont flottants et qui se raccrochent donc à l'écume, c'est-à-dire l'émotion, etc. Comment arriver à sensibiliser ces gens-là? Extrêmement compliqué. extrêmement compliqué, parce que moi je pense que cette perte de confiance, cette espèce de sens démocratique ou civique, s'explique aussi parce que les gens estiment que les politiques manquent d'efficacité dans la gestion du pays, que les politiques passent sous les fourches caudines de l'économie. On ne peut pas totalement leur donner tort aussi. Et qu'à partir de ce moment-là, à quoi sert d'aller voter, puisque de toute manière, la droite comme la gauche, quand il y a une crise économique, ils sont aussi impuissants les uns que les autres. Bon, il faut vraiment avoir l'âme chevillée au corps pour aller voter quand, par centaines sont mis au chômage, etc. Donc, à quoi bon lire un journal aussi? Qu'est-ce que vont nous dire les journaux? Ils vont nous répercuter le discours officiel des politiques et ceci, cela. Bon, donc, perte de crédibilité dans la politique, donc, presque quasiment de manière automatique, perte de crédibilité dans la presse et dans les informateurs. Dans les années 60, il y a un sondage qui a été fait pour savoir si les Français faisaient quels médias les Français faisaient-ils confiance en priorité. C'était l'époque du plein verrouillage gaulliste. Ben, les Français disaient la presse écrite, ils ne sont pas fous. Vous avez bien compris que la télé, on verrouillait, on bétonnait, etc. Donc c'était la presse écrite. Bon. Aujourd'hui, le dernier sondage, La Croix fait un sondage tous les ans sur la confiance qu'ont les Français envers les journalistes. La grande majorité, les Français n'ont pas confiance dans les journalistes. Bon. Donc, les Français ne sont pas totalement dupes. Ceux qui sont, ceux qui réfléchissent ne sont pas dupes. Et ceux qui ne réfléchissent pas, ils ont compris que tout ça, de toute manière, c'était de l'inefficacité totale. La presse, les politiques, tout ça est englobé dans le même rejet d'inefficacité. C'est difficile de leur faire reprendre à la fois le chemin des urnes et le chemin des kiosques. Pour moi, c'est assez lié.
C'est pas également conforté quand on voit par exemple le nombre de blogs que les journalistes créent, leur blog, ouais. Ils n'ont pas la liberté de parole sur leur journal.
Ouais, oui.
On a ces blogs, on a 89 avec des anciens journalistes de Libération, on a pas de chiche.
Oui,
mais... Alors, la vraie information,
bon, elle est là. Oui. Oui, oui. Alors, eux, ils ont fait effectivement le.
Aujourd'hui, on nous parle de Twitter. Ouais. Disons ouais. Que Twitter, voilà, peut relayer ouais. La vraie information, ce qui se passe vraiment, alors que les journaux, la presse écrite.
C'est pas par hasard si ces blogs-là sont faits par d'anciens journalistes. Enfin, c'est plus que des blogs, c'est des sites d'ailleurs. C'est des sites d'information.
C'est des blogs de réveil.
Oui, mais bon, c'est des sites d'information parce qu'ils ont estimé que dans leurs journaux, ils ne pouvaient plus s'exprimer comme ils le souhaitaient, pour des raisons que je viens d'ajouter, pression économique, pression politique, etc., poil de la hiérarchie, bon. Donc, voilà. Sauf qu'eux aussi vont être confrontés, au bout d'un moment, au même problème. C'est-à-dire, on vit comment? Parce que, oui, il faut bien vivre. Rue 89, ce sont d'anciens journalistes de Libération qui sont partis, qui ont mis au pot commun leurs indemnités, etc. Enfin, les indemnités, ça ne vous fait pas tenir toute une vie, ça. Donc, il faut trouver un modèle économique. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, journalistiques, mais après, il faut tenir. Donc, mais c'est vrai que c'est significatif d'un espèce de ras-le-bol, parce que bon, les journalistes en ont marre. Je veux dire, au bout d'un moment, ça devient plus possible. Avec cet effet, regardez l'exemple des Échos. Quand les Échos ont été rachetés par Bernard Arnault, c'était en plus une entreprise qui fonctionnait très bien. Je veux dire, il n'y avait aucun problème économique, etc. Bon, ils ont été rachetés par Bernard Arnault. La rédaction a protesté, s'est mise en grève. Il y a eu un mouvement même qui était plutôt fort et bien suivi. Ça n'a pas empêché le rouleau compresseur économique de passer, et Bernard Arnault a racheté les Échos, quelle que soit la protestation qui a pu émettre la rédaction, et qui avait été forte, et qui avait eu même un certain nombre de soutiens de la part des autres journaux. Et par contre, ce que je peux vous dire, c'est un journaliste des Échos qui m'a raconté ça, ils ont mobilisé donc la sphère politique pour éviter le rachat des Échos par Bernard Arnault, un ami de Sarkozy. Il y avait même un ministre qui avait donné sa signature pour soutenir les journalistes des Échos. Il l'avait donné le matin et l'après-midi, il a téléphoné pour la retirer. Bon, c'est pas le, le mauvais de la bande, si on peut dire, sur le fond. Mais bon, quand on a su au gouvernement qu'il avait donné sa signature pour soutenir les...
On a le cas de Sylvestre avec Paris-Match.
Comment ?
On a le cas de Sylvestre avec Paris-Match.
Genestar.
Hein. Genestar qui a été évidé, hein, mais c'est... Bon.
Alors, c'est... Le cas du JDD est intéressant parce que on comprend qu'il y a un certain nombre de journalistes ont envie de partir quand on voit que l'information, c'est le journal du dimanche qui a révélé l'information, qui voulait révéler l'information selon laquelle Cécilia Sarkozy n'avait pas été votée. Bon, dans un autre journal, on aurait diffusé l'information. Là, comme par hasard, c'est le JDD, c'est le journal d'Arnaud Lagardère, bon, l'ami de... Bon, putain. Voilà. Et d'ailleurs, le journaliste qui a diffusé l'information est parti.
Bon. Il y avait déjà eu Genestar.
Hein ?
Il y avait déjà eu le coup de Genestar.
Oui, mais bon, c'est... Bon, voilà, alors, il faut pas considérer que l'intervention est quotidienne, permanente, enfin, je veux dire, bon... Pas non plus tomber dans une espèce de paranoïa. Sauf qu'on sait qu'en des périodes chaudes comme des périodes électorales, quand on sait que ça touche vraiment à des personnalités importantes qui sont en relation avec le patron, voilà, attention, ça commence à... Eh oui, et là, l'autocensure devient maintenant...
C'est l'autocensure
devient maintenant mode de vie permanent, quoi. Je veux dire, pour les journalistes, notamment politiques, économiques.
Vous avez bien distingué analyse et émotion, quand on fonctionne sur le registre de l'émotion. À plusieurs reprises, vous avez employé l'expression bienvenue, de mon point de vue, de démocratie d'opinion. Est-ce que vous pourriez donner votre définition de la démocratie d'opinion ?
Démocratie d'opinion, c'est la démocratie qui s'exerce à partir notamment des sondages.
Parce qu'on se souvient très bien de Tocqueville et...
Oui, c'est-à-dire que... Oui, alors, l'opinion, c'est quoi ? C'est tout et rien, quoi. Elle est insaisissable et en même temps omniprésente. C'est-à-dire qu'on comprend que le pouvoir n'émane plus forcément de ceux qui le détiennent. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir d'influence qui est issu de l'opinion publique. Toute la difficulté consiste à définir l'opinion publique. C'est quoi l'opinion publique ? Ça peut être aussi le café du commerce, ça peut être le café du commerce. C'est-à-dire, bon, mais... Les politiques, ceux qui nous gouvernent, sentent bien, et c'est maintenant d'autant plus relayé par les sondages, que les gens réagissent aux choses. Bon, les gens, on sent bien, quoi. Mais vous avez été sondé, moi jamais, peut-être que parmi vous, il y en a. Après, c'est cette espèce de mouvement... l'opinion, c'était quoi au fil des siècles ? C'est très curieux. Avant la Révolution, c'était dans les salons l'opinion, c'était l'opinion bourgeoise, c'était pas l'opinion du peuple, c'était ceux qui lisaient les philosophes, les Lumières, etc. Bon, c'était circonscrit à ça, sauf que ça commençait à compter. Ça a commencé à compter à ce moment-là. Et il y en a un qui a très bien compris l'émergence de l'opinion, ce qu'était l'opinion à l'époque. C'est Napoléon Ier, d'abord, avant le Napoléon III. Napoléon Ier a très bien compris qu'il y avait une opinion qui était en train de naître. Parce que, il savait que dans les salons, on discutait sur les textes des Lumières. Pendant les révolutions, il a vu l'influence que prenait la presse révolutionnaire sur les gens, parce que c'était une période de bouillonnement, et donc on distribuait des feuilles... Le père Duchesne, il y avait des moulins qui sortaient, il y avait Marat qui avait l'ami du peuple, etc. Il y avait des sortes de meetings plus ou moins improvisés. Et là, il a vu qu'effectivement, l'opinion publique pouvait se mettre en marche à partir de ce qu'elle pouvait lire, à partir de ce qu'elle pouvait entendre, surtout dans des périodes comme ça, où on peut facilement manipuler l'opinion. Donc là, l'opinion s'est élargie à une catégorie populaire, mais bon, la quantifier... Est-ce que cette opinion allait jusque dans au fin fond des campagnes au 19e siècle, au début du 19e siècle? Non. Et pourtant, vous avez entendu lire un bouquin un peu là-dessus où on explique qu'on lisait beaucoup, finalement. Les gens lisaient, parce qu'en plus, il n'y avait pas grand-chose à faire. Ceux qui savaient lire, lisaient. Ceux qui savaient lire, lisaient. Ou on leur lisait. Ceux qui ne savaient pas lire, on leur lisait des choses. Donc, c'est petit à petit ça qui a gagné. Cette espèce d'opinion publique qui a fonctionné par cercles qui se sont élargis. Alors, après, l'opinion publique... ce que l'on en voit, ce qu'on en sait, c'est essentiellement par les sondages. Et puis par Internet. Internet aussi devient maintenant un facteur de connaissance de l'opinion publique. Enfin, je veux dire, bon... l'exemple de Jackson, c'est quand même assez fabuleux, quoi. Je veux dire, bon... Mais qui... Si on avait eu Internet quand est mort Elvis Presley, ce serait vraisemblablement produit la même chose. Parce que Elvis Presley était, à son époque, une espèce de personnalité planétaire aussi. Bon, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens de diffusion comme ça. Et je pense que Presley serait mort maintenant, ça ferait autant de tabac que Jackson. Donc maintenant, c'est l'opinion publique. Voilà.
C'est un marché.
C'est un marché en plus, bien sûr. Bien sûr, c'est un marché. C'est un marché. Donc, comment définir l'opinion publique, c'est tout le monde est personne à la fois, quoi. Je veux dire, c'est bien ça d'ailleurs le problème de l'opinion publique.
Oui, des choses très importantes sur les dernières présidentielles.
Oui.
C'est pour ça que je relance.
Mais il y a quand même un truc extraordinaire. Maintenant, les politiques, ils sont dans la compassion permanente. Il y a un gosse qui tombe en vélo, de suite le ministre accourt. Alors, le président de la République reçoit tous ceux qui ont eu un accident, un truc comme ça. Hein, je veux dire, il faut prendre son ticket maintenant. Et bon, c'est quoi ? C'est le poids de l'opinion. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? On sait que les gens, ça les touche, qu'il y a de l'émotion, que bon, cette opinion-là, il faut lui donner ce qu'elle attend, ce qu'elle a envie. C'est-à-dire que, on va compatir, on se déplace, on fait semblant. L'inévitable cellule psychologique. Pourquoi ? Parce qu'on sait que l'opinion attend ça.
Et que l'opinion va voter.
Et qu'on se dit, quand même, on a des gouvernants qui sont quand même humains, ils ne sont pas que dans leur château et dans leurs palais nationaux, etc. Bon, c'est l'opinion, ça. C'est, je veux dire, ça n'existait pas auparavant, quand l'opinion n'avait pas cette poids, cette emprise, etc. Ça n'existait pas. Il y avait des catastrophes naturelles, très bien, on se déplaçait, mais au minima, etc. Bon, et pas toutes, pas pour toutes. Là, maintenant, le moindre bobo, je veux dire, une escouadre de voitures à cocarde qui débarque. Bon, je veux dire, et alors là, et après, mais quand même... Ils s'occupent de nous, oui, c'est ça. Et l'opinion le réclame. L'opinion le réclame.
Pensez-vous que l'opinion le réclame ou que qu'on choisit de la flatter de cette façon-là ?
Mais les deux.
J'ai du mal à penser que tous les cafés du commerce de France sont pour la compassion à outrance. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de gens lucides.
Oui, mais.
Mais qu'il est facile de flatter.
Bien sûr, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire les deux se nourrissent. C'est-à-dire que les gens ont besoin, en même temps ils ne sont pas forcément dupes, mais quand même, on les prend en considération. On les prend en considération.
Donc, ils ne pensent pas qu'on les prend pour des...
Certains, oui. Vous allez encore avoir un grand exemple demain après-demain de guignolerie totale. C'est le sommet du G8 à l'Aquila, au milieu là des décombres, des gens qui sont sous leur tente, etc. Et vous allez avoir les chefs d'État du G8. Pour vous dire quand même que c'est quand même des gens simples, on vous montre l'école où ils vont coucher, où Obama va coucher avec les chefs d'État. Parce qu'à l'Aquila, il n'y a pas le Bristol, il n'y a pas le Méridien, il n'y a pas les hôtels de luxe, etc. Surtout dans l'État dans lequel est la ville. Donc voilà, et on vous dit, ils vont coucher dans une école publique. Hein. Alors c'est tout juste si on n'imagine pas les lits de camp. Il faut quand même être malade. Vous s'appelez Berlusconi, pour avoir organisé... Oser organiser un truc comme ça, quoi. Et vous allez avoir des gens qui vont trouver ça très bien. D'autres qui vont dire, parce qu'on en a déjà interviewé un peu, là, qui sont dans leur bidonville, sur leur tente, C'est moyen, pour les habitants. Hein. Oui. Je trouve ça plus que moyen comme effet. Mais vous allez avoir des gens qui vont être là, ah, oui, quand même. Hein. Pour ce genre d'opération, comme pour le reste, je veux dire, vous avez des conseillers en communication qui font fortune avec ça. Je veux dire, bon, moi, dans le bouquin...
On ne peut pas dissocier ce qu'on sait des déboires de Berlusconi de cette décision.
Oui.
Le déboire, on ne peut pas dissocier les déboires de Berlusconi.
De la décision d'aller tenir le G8 à la
passionnelle.
Non, je ne verrais pas ça. Il est très populaire.
Oui, il est très populaire en Italie. Mais alors, ça aussi, c'est intéressant. Pourquoi ce type qui a été élu...
Il est populaire, mais tout de même, la presse lâche plus sur ces...
Oui, mais là, ça devient de plus en plus populaire.
Mais voilà.
C'est ça qui...
Il a déjà été suffisamment populaire pour être réélu, alors qu'il avait déjà été élu, il avait quitté le pouvoir. Je veux dire, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Au bout d'un moment, il faut que les gens aussi, ils mettent du leur. Il faut que les gens y mettent du leur. On n'est pas obligé de réélire Berlusconi en Italie. On n'est pas obligé de réélire Balkany en France. Hein? Bon, je veux dire... Moi, je veux bien. Je veux dire, Tapie se présenterait, il serait réélu. Bon.
Parce que la malignité de jour, c'est l'intelligence.
Ah, mais ils savent très bien. Ils savent très bien jouer ça. Ils connaissent très bien les ressorts, justement.
Ils connaissent. Mais de toute façon, en Italie, ils achètent quand même beaucoup. Parce que les gens sont quand même très... Enfin, la mafia est quand même très, très forte. Elle est tentaculaire. Et il y a beaucoup d'assistanats, quelque part. Non, mais... Pour obtenir un poste, si on n'est pas pistonnier, on n'a pas de travail. Enfin,
non, mais bien sûr, mais...
Et c'est ça aussi qui est terrible.
Ce que je veux dire, c'est que, quand même, la majorité des gens... Dans leur vie, dans leur quotidien, ne se reconnaissent pas dans Berlusconi. Enfin, je veux dire, mais même dans leur situation sociale, quoi. Et pourtant, ces gens-là ont voté pour lui. Il n'y a pas que forcément parce que c'est la mafia qui derrière ou ceci ou cela.
Ça le rend accessible.
Non, je ne suis pas d'accord. Excusez-moi. Oui. Je suis pas d'accord quand vous dites que les gens ne se reconnaissent pas en lui. Les Italiens, c'est leur fantasme.
Oui. C'est leur projection. C'est une projection. Mais c'est pas une identification de ce qu'ils vivent. C'est ce qu'ils voudraient être.
C'est une identification dans le sens qu'il a bien baissé le niveau culturel des Italiens. Même avant d'arriver au pouvoir, avec 50% des médias, il a lavé le cerveau.
Ah ben,
le niveau a baissé. Donc.
Mais tout à l'heure, je vous parlais de propagande. Il ne faut pas oublier que c'était le neveu de Freud. Et qu'il a mis au point les théories de la communication en utilisant les théories de l'inconscient. Comment on peut, à partir de là, manipuler les gens?
C'est pour ça que je vous dis que l'influence des médias ne concerne pas le nombre de passages des gens à la télé. C'est le message plus ou moins subliminal qui est diffusé. Celui de l'émotion, celui de la peur, celui de l'insécurité. Comment expliquez-vous que dans les régions, comme dans des
coins... La fameuse phrase de Moujotte.
Oui.
Ah oui,
Non, de Gickel.
Gickel, c'est la France en paix.
Le lait qui avait dit sur le lait. On est là pour vendre de Coca-Cola. Mais ce que je veux dire, c'est que comment vous expliquer que dans certains coins reculés où il n'y a pas un immigré, les gens aient voté massivement Front National à certaines élections, dans certains bleds, aucun problème. Ouais, l'Alsace, c'est un problème avec frontalier avec l'Allemagne, etc. Mais je pense qu'il y a des coins, je crois en Charente ou etc., où il n'y a pas un immigré ou ça, il ne se passe rien, et les gens ont voté en présidentiel. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a ce discours ambiant, subliminal, la peur, l'extrait en boucle du Papivoise en 2001, dont on a appris par la suite qu'il n'était pas aussi innocent que ça. Mais enfin, bon, bref, passons. Toujours est-il que on a passé ça en boucle pendant des jours. Bon, les gens se disent, oh là. Je veux dire, c'est que ça a un impact sur les gens qui sont peu formés politiquement, qui ont peu de convictions politiques, qui ont peu de structuration politique, quoi. Je veux dire, bon.
Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je suis en train de réaliser, c'est que on a quelque part peut-être le leurre de penser que la démocratie s'est développée, mais avec la démocratie, s'est développé une espèce de marché, c'est-à-dire que la démocratie est basée sur des votes. il faut élire, c'est le suffrage universel. Mais finalement, c'est complètement récupéré. Quand on voit les campagnes de... l'argent qu'on dépense pour les campagnes électorales, c'est quand même l'indice d'argent insuffisant. S'il n'y avait pas tout cet argent, tout ce marché de... Enfin, je ne sais pas si je suis prête, mais je trouve qu'il y a... La démocratie a été complètement récupérée ou est complètement pervertie par le marché et c'est terrible parce que ça, j'ai l'impression que ça s'accélère de plus en plus, ou alors on est de plus en plus lucide, je n'en sais rien.
Oui, de toute manière, l'exemple de la télévision est un bon exemple de l'influence de l'argent sur le fonctionnement de l'information, des journaux télévisés, oui, mais on peut aussi essayer de s'en évader, quoi. Ce que je veux dire, enfin, en prendre conscience.
Ah oui, de toute façon, c'est des livres comme le vôtre, c'est important d'y aller.
C'est tout, quoi. Je veux dire, c'est.
Moi, nous, allons sur le niveau, qu'est-ce qu'on peut faire?
Vous pouvez expliquer aux gens ce que vous savez, ce que vous sentez, comment ça marche à partir de ce que vous savez, etc. Je veux dire, non, mais on ne peut pas non plus faire le bonheur des peuples contre eux-mêmes. Je veux dire, ce qui est dramatique, c'est qu'on est dans un système qui, effectivement, n'incite pas à relever le niveau des débats.
Peut-être l'éducation aussi.
Bien sûr qu'il y a l'éducation, mais je veux dire, bon, alors, plus vaste problème encore. Mais c'est vrai qu'il y a l'éducation. Vous avez des chaînes de télé, vous regardez par exemple la 5 ou Arte. Vous n'avez pas des mauvais programmes là. Au contraire, ça vous pousse à réfléchir, ça vous informe, ça développe votre culture, etc. Bon, les gens ne regardent pas ça. Bon, tant pis. Je veux dire, au bout d'un moment aussi, moi j'ai écrit un livre. Bon, je ne vois pas ce que je peux faire de plus, je ne vais pas m'exposer en place de grève. voilà, je viens, on m'invite, j'explique. Si les gens aussi ne veulent pas faire un minimum d'efforts, je veux dire, le déterminisme social, ça existe aussi, mais on peut aussi le faire reculer. Il y en a qui le font reculer. Maintenant, on est dans une culture. À la fois, c'est assez curieux, du fric et de la gratuité. Ce qui est quand même un peu paradoxal. On vénère le fric, il faut faire du fric. Et en même temps, ce qu'on voit aussi, chaque fois qu'on peut éviter de payer, on le fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que maintenant, des sites internet qui sont gratuits, ça va être très difficile de les faire devenir payants. Je veux dire, parce que voilà. Les journaux gratuits maintenant, évidemment, au début on a dit non, ça prendra pas de la clientèle, si, ça prend de la clientèle et ça prend de la pub. Résultat des courses, la presse est quand même, comme je disais tout à l'heure, la seule filière où le gratuit est en concurrence avec le payant. Si votre boulanger, vos boulangers ici à Arcueil, va arriver un boulanger qui donne du pain gratuit, vous allez voir, ça va gueuler. Dans la corporation des boulangers, parce qu'on va dire, c'est quoi ce dumping, etc. Et pourquoi lui il donne son pain alors après, non. Les gratuits sont arrivés, on a constaté, on a même à la limite un peu minimisé les dégâts. Et puis maintenant, on s'aperçoit que c'est un vrai problème parce que non seulement ça prend des lecteurs et de la pub, mais ça introduit dans l'esprit des gens une culture de la gratuité. Ce qui fait que maintenant, les gens considèrent que l'information ne doit pas avoir un prix, un coût, alors qu'elle en a.
C'est pas de l'information, je vous
ai dit. Si, c'est de l'information. Parce que.
C'est tellement minima.
Mais oui, c'est la minima. Mais ça suffit aussi à un certain nombre de gens. Non, parce que je vois bien, c'est fait avec les dépêches d'AFP, c'est fait, je veux dire. Mais il y a. Mais les gens, il y en a qui n'ont pas besoin, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être plus informés que ça.
C'est pas de la désinformation.
C'est pas de la désinformation.
Oui,
d'accord.
C'est pas ça. Oui, moi je dis pas de la cuisse, mais bon. Mais 20 minutes, métro, tout ça. Ça vient de Suède.
De la Suède.
Pays nordique.
Non, je veux dire en France, qui a voulu les faire? Parce que je pense, j'imagine pas quelqu'un qui fait quelque chose de gratuit sans avoir une
Il y a de la pub, il gagne de l'argent. Les gens qui travaillent là-dedans sont payés. Mal. C'est comme ceux qui travaillent sur les sites internet. C'est des galériens de l'information. Ils sont payés avec un lance-pierre. Quoi. Je veux dire, c'est une espèce de lumpen prolétariat de l'information moderne. Et les jeunes qui travaillent sur les sites internet, c'est agressant. Moi, j'en connais quelques-uns, etc. Ils sont exploités de manière éhontée.
Même les chaînes d'information
continue. Oui, bien sûr. Maintenant, le recrutement des journalistes, c'est des salaires à minima, Donc ça aussi, ça ne peut pas améliorer la qualité de l'information. Le type, il lui demande de faire 3 reportages dans la journée, il a le temps d'en approfondir aucun. Je veux dire,
c'est comme Bolloré, il fait vraiment du fric avec Direct 8.
Je pense que ça doit rentrer dans son groupe. Enfin, je pense que c'est une espèce de mécanique. Je ne sais pas si.
Non, parce que si je dis ça, c'est on se souvient bien des déclarations de. Enfin, c'était pas des déclarations, c'est cet ouvrage autobiographique de Marcel Dasson qui expliquait très très bien pourquoi il avait acheté le Figaro. Il avait dans les mains un organe d'expression et donc de constitution d'opinion.
Oui,
ça faisait sens.
Et là, ça,
oui, mais un engin comme ça, Direct 8, ça, c'est pas
ça.
Mais
bien sûr que vous l'aurez, un excellent ami.
On pense qu'on veut du Figaro, c'est réellement une presse d'opinion qui est là pour construire des argumentaires, pour influer sur le corps politique, je dirais, et le corps électoral, constituer une opinion. Ce que je veux dire, c'est que Direct 8, ça ne permet pas ça du tout. C'est du flash. C'est
oui, mais les gens qui lisent Direct 8 n'achètent plus France Soir, ils n'achètent plus Le Parisien, probablement.
Ça gagne, oui, ça gagne. Donc, ça gagne.
Vous espériez que ce serait une stratégie en ricochet, c'est-à-dire que c'est pour tuer la presse
de l'Union. Non,
je ne sais pas si l'objectif, c'est de tuer la. Non, de toute manière, moi, je pense qu'on a toujours eu une presse qui était d'opinion en France. C'est une des caractéristiques. C'est une des caractéristiques de la presse en France. C'est une presse d'opinion et c'est peut-être aussi là une de ses faiblesses maintenant. Parce que finalement, les lecteurs du Figaro, ils sont très identifiés, c'est les lecteurs de droite. Les gens de gauche n'achètent pas le Figaro. Les gens de droite n'achètent pas l'IB. Donc chacun a sa clientèle. France ce soir, c'est populaire.
Est-ce que France ce soir n'a pas baissé depuis qu'il y a les...
De toute manière, France ce soir, ça fait très longtemps qu'il a baissé. Il y a longtemps qu'on a quitté la période Lazareff. Mais c'est vrai que cette catégorie populaire-là, elle a plutôt tendance à acheter un gratuit. À se satisfaire d'un gratuit. Bien sûr. Donc je pense que l'objectif de Bolloré, c'est pas de tuer les journaux d'opinion, c'est de récupérer des lecteurs sur la presse populaire.
Et c'est là où je parle de désinformation, parce que quand on lit ces journaux, moi je me lis régulièrement le voir, je trouve que c'est pathétique, quoi.
Parce que vous n'y trouvez pas votre compte. Mais il y a plein de gens qui trouvent leur compte. À qui ça suffit.
Mais ça vide la tête, ça remplit
mais il y a des gens qui veulent pas remplir la tête. Qui veulent juste savoir, grosso modo, ce qui s'est passé dans la journée.
C'est pas de l'information, ça.
Mais bien sûr que c'est pas de l'information. Enfin, si, c'est de l'information, mais c'est l'information à minima. Je veux dire, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de truc. On vous colle une dépêche AFP, à peine rebâtonnée, et puis voilà, c'est comme ça que ça marche.
Justement, pour rebondir sur ça, en fait, vous avez évoqué plusieurs fois le terme de vraie information. On va débattre autour de ça depuis quelques temps. Donc, historiquement, il semblerait que ce n'ait pas existé la vraie information, sur le peu sur lequel vous êtes en tout cas penché là, sur cet exposé. Actuellement, elle ne semble pas exister, donc on va faire un peu de prospective. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être le cadre idéal pour que... Alors déjà, peut-être de mieux définir ce qu'est une vraie information et quel serait le cadre idéal de travail pour permettre à cette vraie information d'exister.
Moi, je pense que le cadre idéal de travail, s'il y a un cadre, je pense qu'on va y arriver. J'avais lu justement un papier de Gaucher justement sur cette question-là. Qui dit, pour moi, le cadre idéal de travail... C'est D'abord, de se dire que l'information maintenant, peut-être plus que jamais compte tenu de son foisonnement et de sa massification, la véritable information, c'est pas l'information du jour, enfin, c'est pas dans la journée qu'elle peut se traiter. Enfin, dans la journée, on peut la donner, l'information, mais lui donner du sens nécessite plus que l'immédiateté. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on aille de plus en plus vers des journaux qui prennent le temps de l'expliquer, de lui donner du sens, de lui donner un cadre, et puis de la vérifier encore plus, et de manière à faire de la pédagogie sur un événement, sur une personnalité, ceci, cela. Donc je pense que plus ça ira, moins le cadre, la quotidienneté sera le plus pertinent pour avoir une véritable information. C'est pour ça que je pense, moi, que l'avenir des quotidiens n'est plus quotidien. Je pense que si les quotidiens veulent continuer à avoir un sens pour le lecteur, il ne faut pas qu'ils paraissent tous les jours. Il faut qu'ils paraissent peut-être 2, 3, 4 fois par semaine, en faisant un traitement beaucoup plus magazine et beaucoup plus pédagogique de l'information. Et en laissant l'information flash immédiate au site Internet. Parce que ça, de toute manière, on ne l'empêchera pas. Maintenant, chaque fois que vous ouvrez votre truc, vous avez Orange qui vous donne les informations de l'AFP, ceci, cela. Donc, bon. Mais très bien, à la limite. Puisque Internet, c'est le truc de l'immédiateté, autant leur laisser. Par contre, pour la presse, notamment la presse écrite, il faut faire davantage de pédagogie sur le temps. C'est-à-dire prendre son temps d'expliquer ce qu'est un événement, qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce qu'il y a derrière, et quelle est la signification que ça a. Moi, je suis éditorialiste dans un journal. C'est quand même un exercice quelque peu qui relève de l'équilibrisme. Vous avez un crash qui se produit dans l'Atlantique, entre Rio et Paris. Ça arrive, vous avez l'information à 13h à l'AFP. Le soir, on vous demande de faire un éditorial sur ce crash. Moi, dans mon bureau à Paris. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? On ne sait pas, on ne savait pas, quand il a fallu que je fasse mon article, on ne savait pas si c'était un attentat, si c'était une défaillance technique, si c'était une défaillance humaine. Bon. Le contexte fait que il faut faire quand même un papier là-dessus. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est pas propre à mon journal. Hein. Tous les journaux fonctionnent comme ça. Au lendemain de la mort de Michael Jackson, je reviens toujours, vous allez dire que je suis fixé sur...
C'est une véritable information, la mort de Michael Jackson.
Oui, c'est une information. Bien sûr qu'il faut donner l'information. Mais bien sûr qu'il faut donner l'information. Mais quand vous avez... moi, cette information, je suis rentré chez moi le soir, il était 23h. Réflexe de toujours professionnel. Bon, je branche à LCI et j'entends 23h, Michael Jackson est dans le coma. Enfin, il a été transporté à l'hôpital, il est dans le coma. Bon, très bien. Bon, ça ne m'a pas franchement empêché de dormir. Hein. Pas besoin de vous le dire. Bon. Et le lendemain matin, à 8h, j'ouvre ma radio, pof ! Entre-temps, Michael Jackson est mort. Bon. Que l'on donne l'information, que l'on fasse un truc. Hein. Mais après, vous, pareil, l'éditorialiste, vous êtes obligé de faire un édito sur Michael Jackson. Parce que l'émotion est telle, la dimension qu'a pris cette information est telle que... Bon, Il se trouve que j'avais un déjeuner avec d'autres éditorialistes à midi là, qui a suivi l'annonce de Michael Jackson, avec un conseiller d'Élysée. On était tous là, on était tous des éditorialistes, on était assez effondrés à l'idée qu'on allait tous être obligés, dans l'après-midi, de faire un édito sur la mort de Michael. Non seulement de faire un édito sur le monde de Michael Jackson, mais de dire que c'était un génie. Parce que comment voulez-vous aller contre l'émotion planétaire, et y compris de nos lecteurs? Parce que si vous dites ce que vous pensez de Michael Jackson en disant que c'est cette espèce de mutant, vous traitez de mutant plutôt que de génie et de malade plutôt que de sommité, même vos lecteurs, ils vont ils vont téléphoner, ah, comment ça, donc vous vous sentez obligé d'écrire ça.
Et c'est là
quand même pourquoi justement dans tous les médias les mêmes informations sont reprises. Je comprends pas.
Parce que d'abord les sources sont les mêmes et les critères de sélection sont les mêmes.
Oui, mais sur tous les critères, c'est ça.
Comment ?
Non, mais sur tous les critères, c'est là où je voulais en venir, parce que quand même, les dépêches AFP, il y en a quelques milliers.
Oui,
et il y a 10 informations qui sont prises chaque jour.
Oui, parce que les critères de sélection sont les mêmes.
Et vous trouvez ça normal ?
Non, je ne trouve pas ça totalement normal. Je ne trouve pas ça non plus totalement anormal. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi simple. Mais on peut aussi varier. On peut afficher d'autres priorités. Dans les choix. Oui, mais la presse aussi a un fonctionnement parfois schizophrénique. On vous dit dans un journal, il faut trouver des idées parce que on a tous les mêmes idées, on fait tous les mêmes choses. Bon, très bien, donc essayez de trouver une idée originale. Alors, trouvez un sujet qu'on pensait original, vous l'amenez. Alors, la tranche, elle dit, ça ne doit pas être très bon parce qu'on l'a vu nulle part ailleurs, son idée. Bon, bon alors. Non, mais ça marche aussi comme ça, quoi. Je veux dire, faut quand même être. Bon, c'est. Alors, au bout d'un moment.
Donc, vous ne faites pas confiance au lecteur, c'est bien ce que je dis.
Non, on sait aussi que le lecteur. On sait aussi que le lecteur a une certaine attente. Une certaine attente.
Non, vous ne testez pas votre idée.
Non, on ne teste pas. On ne teste pas parce que les responsables de la rédaction ont peur que finalement ça soit un truc qui ne marche pas.
On ne fait pas confiance au lecteur.
Non, et on ne fait même pas confiance aux journalistes qui proposent l'idée. Donc.
Mais c'est pas étonnant, si vous ne faites pas confiance au lecteur, pourquoi voulez-vous que les lecteurs en retour fassent confiance aux journalistes?
Ah oui, non mais.
Deux dernières interventions.
Les journalistes ont une part de responsabilité là-dedans. Hein.
Madame.
Juste un tout petit commentaire, finalement la conclusion, c'est que si vous faites tous le même éditorial, finalement il n'y a rien, plus rien de départage. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde aura la même information. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous courez être tous à votre perte en même temps. C'est-à-dire qu'au fond, si personne va sortir du lot au fond, en disant aujourd'hui, finalement, on va parler d'autre chose, c'est peut-être ça qui fera que quelqu'un. Enfin, qu'on vous échauffera le journal finalement. Ce qui est ça, c'est compliqué, c'est qu'au fond, la même information, tout le monde va l'avoir, strictement la même.
Ouais. Oui.
Donc,
c'est
un petit peu la question. Comment on peut faire pour que justement quelque chose qui soit un peu différent, c'est-à-dire que peut-être génial et malade en même temps.
On peut obliger. Et il y en a qui l'ont dit d'ailleurs par rapport à Alan Jackson, que c'était des danseurs, mais que c'était bon et qu'on pouvait choisir dans bon.
Tout le monde doit écrire la même chose.
Mais oui, mais parce que vous sentez bien qu'il y a une pression de votre
Info 89, ils ont pas.
Mais non, bien sûr, parce que ils ont fait ce choix-là. Sauf que les gens qui sont responsables d'un journal, les gens qui sont responsables d'un journal et d'un journal en crise, comme sont tous les journaux, ils ne veulent pas prendre le risque de faire un autre type d'information parce qu'ils ont peur de perdre le petit matelas de lecteurs qu'ils ont et qui décline d'année en année.
Bon. Mais c'est logique, puisqu'ils ne font pas confiance à leur lectorat.
Oui, mais non, mais. Oui, non, mais.
Ici, la branche sur laquelle ils sont.
Oui, ici, la branche sur laquelle ils sont assis. Mais. Rien ne garantit non plus que de faire un espèce de contre-journal marcherait aussi. Il y a aussi, quand vous avez un matelas de lecteurs, vous n'allez pas les désorienter comme ça. Je veux dire, c'est pas possible. Donc c'est extrêmement difficile de prendre le contre-pied de son lectorat. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme on le disait tout à l'heure, Libé a son lectorat, Le Figaro a son lectorat. Si vous les prenez à contre-pied, les mecs, ils vont plus acheter, ils vont être désorientés, etc. Et vous n'êtes pas sûr d'en gagner d'autres. Vous en perdez plus vite les lecteurs que vous n'en gagnez, je peux vous le dire. Donc.
Alors, vous deux, mademoiselle, puis monsieur, puis on arrête. Hein.
Oui.
Ah, alors les trois, allez, trois, là.
Oui, je voulais vous dire que sur France Inter, j'avais entendu une super critique musicale qui disait justement que Michael Jackson n'avait pas été un pur génie, qu'il n'avait pas fait de la pure musique tout au long de sa vie, et donc c'était une critique très constructive, et je crois que ce qui est important, enfin, moi ce que j'apprécie en tant qu'auditeur ou que lecteur, c'est de voir l'opinion du journaliste qui me parle et pas l'opinion publique via le journaliste.
Oui.
Voilà. Donc merci de prendre la parole. Du coup, on a l'impression que les journalistes ne prennent plus du tout la parole en tant qu'eux-mêmes, mais en tant que l'opinion publique.
Bah,
c'est désolant.
Bah, oui.
Je voulais vous dire aussi que si moi, en tant que simple citoyen, je peux faire l'effort d'acheter des journaux, peut-être vous, en tant qu'éditorialiste, vous pouvez faire un effort au niveau de vos éditoriaux, parce que c'est là que vous avez le pouvoir. Mais je comprends aussi, et vous nous l'avez très bien expliqué, que le secteur en crise, la trouille, machin, patata, patata, on est tous dans le même bateau. Enfin, dans ce sens-là, c'est vrai qu'il y a un curseur à poser entre l'intérêt général et l'intérêt personnel, qui est très difficile à poser, et je ne vais pas vous prendre la partie. Et puis, je voulais parler du succès de 21, par exemple, donc une espèce de méta-journal, de méta-review, de je ne sais pas quoi, qui a fait une arrivée abrupte dans le paysage, et dont le succès
Alors,
a surpris.
Voilà. Alors,
une version papier de peut-être ce que vous appelez de vos voeux pour les
quotidiens qui lui. Voilà, donc on regarde c'est un peu ce que développait Gaucher, c'est-à-dire que il ne faut pas forcément chercher tout l'électorat. Il faut aussi qu'un journal cherche un électorat solide, quoi. Et 21, c'est un peu ça. Ils ont pris le parti de faire de très longues enquêtes, de très longs papiers, qui sont des choses qui sont travaillées sur le fond, sur le style, le fond, etc. Et qui a trouvé un véritable lectorat, c'est vrai. Et pourquoi ? Parce que ces gens-là ne trouvent plus dans la presse ce type de papier, et ils achètent ça parce qu'eux, ils ont besoin de ça. Vous avez des gens qui se suffisent de métro ou de la minute, ou du direct ce soir, et il y a des gens, évidemment, qui ont besoin de plus et qui ont besoin de ce type de journaux. Bon, or ça, ce type d'enquête, ce type de reportage, ce type de fonctionnement, ça n'existe plus dans la presse quotidienne. C'est banni, ça. On vous demande de faire des papiers courts, justement, pour concurrencer les gratuits. Mais à force de faire la même chose que les gratuits, on fait des gratuits payants. Alors évidemment, les gens préféreront toujours les gratuits. Bon. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un public pour ce type de papier. Ce type d'enquête, ce type de reportage qui fait réfléchir, qui traite des problèmes au fond. Et c'est pour ça que je disais qu'il faudra bien, à un moment ou à un autre, que les quotidiens reviennent à ça.
Il y a un travail, vraiment.
Mais voilà, un travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous demander, dans une journée, de faire un papier d'analyse sur un truc qui vient de se produire, dont on ne connaît ni les antécédents, ni les causes, ni les raisons, et comme ça, en donnant l'apparence d'une analyse, etc. Ça ne marche pas. Le lecteur, un peu conscient, un peu structuré, on voit bien que tout ça, c'est du pipeau. Bon. Donc, il faudra qu'on en revienne à ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faudra que l'information prenne du temps pour l'expliquer. Alors, ça peut être un hebdomadaire, ça peut être un quotidien qui n'est plus quotidien, mais qui sort 2-3 fois par semaine, qui se penche sur un dossier, etc. Bon. Ce qu'on ne fait pas. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a un public qui existe pour ça. Et Gaucher le disait très bien dans une tribune, il disait... Ben, il y a quand même des gens que ça intéresse, et il ne faut pas les décourager en faisant des quotidiens superficiels, etc. Parce que là, on va les perdre, totalement. Bon, ça suppose de faire des choix. Bon, moi, je pense aussi qu'on peut, en termes de lectorat, on peut tenir aussi tous les bouts de la chaîne. Je veux dire, il y a aussi une erreur qui consiste à dire « on va faire un journal populaire ». Bon, un journal populaire, c'est très bien, mais... populaire, pour moi, c'est un journal qui s'adresse à toutes les catégories sociales, où toutes les catégories sociales peuvent se retrouver. Le journal du dimanche, par exemple, c'est ça plutôt très bien. Bon, vous avez des critiques littéraires, vous avez du sport, vous avez de la culture, vous avez, bon, de la politique, vous avez des intervenants extérieurs, des spécialistes, des tout. Bon, tout le monde n'est pas la même chose dans le journal du dimanche, mais tout le monde peut s'y retrouver. Bon, ça, c'est très bien. Bon, c'est déjà une formule hebdomadaire, mais, bon, donc on peut faire un journal populaire qui ne soit pas un journal bas de gamme. Bon, mais on peut faire aussi, et parce que je pense que ça correspond à une demande de lecteurs, ce type de journaux 21, où là on aborde vraiment un problème de fond, on le traite sur la longueur, etc., et on sort les codes classiques de la presse. Parce que je pense qu'ils me demandent. Il y a des gens qui, effectivement, ont envie, ont besoin de s'informer. Ce qui est en plus normal, puisque l'information, elle est plainte de tous les côtés. Je veux dire, donc c'est normal que ça pique la curiosité des gens. Je veux dire que, bon, je veux dire, mais il ne faut pas en rester à l'écume. Il faut aller plus loin. Et c'est ça que devrait faire la presse.
Je suis un ancien lecteur de journaux et en fait je délivre malheureusement, mais en fait il y a des choses que je cherchais à l'intérieur des journaux que je n'arrive plus à trouver, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'homogénéisation de tous les journaux. Vous dites que Libération, Le Figaro, pour autant, il y a des choses différentes. Moi je suis désolé, j'ai l'impression que vous pouvez maintenant, pour les sujets de fond, c'est la même opinion dans Libération, Le Monde et Le Figaro.
Donc c'est le pluralisme qui...
Le pluralisme, je suis d'accord avec vous, certains, sur certains sujets.
Je ne pense pas que vous lirez les mêmes papiers sur la sécurité dans Le Figaro et dans Libération.
Par exemple, sur Hugo Chavez, vous allez avoir la même opinion dans Libération que dans Le Figaro, c'est à peu près ça. Le deuxième point, moi, je reviens, je serais prêt à racheter un journal si par rapport à un événement, parce que je pense que là, c'est là où on a besoin des journalistes. Si les journalistes sont prêts à faire des analyses, à proposer des hypothèses, et à proposer des hypothèses, tous azimuts, pas uniquement une seule hypothèse, l'hypothèse qui est proposée par le pouvoir ou le système. Quelqu'un qui est capable de proposer un éventail différent et de dire, bah, cette hypothèse-là, pour moi, elle ne tient pas la route parce que telle chose, telle autre, elle m'a l'air plus intéressante parce que tel point. Voilà. Moi, ce que j'attends d'un journaliste, c'est qu'il me propose un éventail d'hypothèses et une analyse, et puis que je sache que quelque part, c'est son opinion personnelle. Voilà.
Mais est-ce que c'est possible?
C'est extrêmement. Ça serait peut-être souhaitable, mais en même temps, comme je disais, ça n'a jamais totalement existé parce qu'on a eu une presse toujours très engagée politiquement, très partisane. Donc il n'y a jamais eu, je pense qu'il n'y a jamais eu ce que vous décrivez. Il n'y a jamais eu. Je pense que ça n'a jamais existé. Chaque journal défendait sa tendance politique et donc par définition ne pouvait pas exposer l'éventail. Ce que l'on peut faire quand même, et ce que l'on fait, on arrive à le faire, mais bon, c'est effectivement donner, même quand on est un journal engagé, des opinions aussi de, entre guillemets, de la partie adverse. Mais je crois que le problème, il est pas là. Je pense que le problème, il est de faire une information plus solide sur le fond. Parce qu'après, à partir du moment où vous faites une information solide sur le fond, le lecteur est capable de se faire sa propre opinion là-dessus. Je veux dire, bon, vous pouvez...
Il faut financer ça.
Il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Or, on ne les donne pas maintenant dans les journaux. Il n'y a plus de moyens, il n'y a plus d'argent.
Donc moi, je voulais vous demander... S'il y avait des antécédents d'annonceurs qui auraient boycotté des grandes chaînes télé après un contre-article paru. Et puis sinon, je voulais parler d'autre chose. Internet, pour moi, je crois que ça permet, vous avez dit, quelqu'un qui fait du pseudo-journalisme, qui va dire une chose qu'il a vue, qu'il a captée, une vidéo... Ben ça, c'est une source d'information importante, multipliée par beaucoup de choses. En fait, beaucoup de choses viennent d'Internet. Par exemple, citons juste ça, la vidéo où il y a l'insulte de Sarkozy au salon de l'agriculture. C'est pas passé à la télé, c'est mis sur TF1. C'est passé après sur France 2, mais avant, c'est passé sur Internet. Il y a plein de choses comme ça. Alors après, bien sûr, il y a un contrôle à savoir et tout ça, mais il y a beaucoup de choses qui viennent d'Internet. Et certes, il y a un modèle économique à savoir, mais chacun de nous peut être source d'information, et c'est pas parce qu'on n'a pas une carte de presse ou quoi que ce soit qu'on ne peut pas avoir une information.
Voilà. D'accord. Et
après,
alors.
Je voulais vous demander aussi sur les... Parce qu'on dit Sarkozy, il contrôle tout. C'est vrai, on le voit pas mal quand même, il contrôle tout. Et pourtant, il y a des journaux qui ressortent dans la presse anti-Sarkozy, donc Le Monde... Le dictateur, le sarcophage, Le monde, ouais, c'est exactement comme
oui, c'est des plagiats.
Ouais, voilà.
Ouais.
Et finalement, ouais. Ils paraissent, ces gens-là, ils sont très crus, quoi.
Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le pluralisme existe et que, je veux dire, ce type de journaux, par exemple, il y a un siècle, on aurait foutu des procès tous les jours, il n'existerait plus. Donc, bon, ça, c'est des pratiques qui ont été abolies, encore heureux. Sur ce que vous dites, alors, est-ce qu'il y a des marques qui ont. Moi, je ne suis pas journaliste de télé, donc je n'ai pas vécu ça de l'intérieur. Peut-être, mais j'en sais rien. Mais c'est possible. Mais bon, toujours est-il que maintenant, à mon avis, il y en a de moins en moins. S'il y en a eu, il y en a forcément de moins en moins, parce que les journalistes font de plus en plus attention.
Mais c'était pour dire, en fait, que sinon, ça se trouve, c'est plus l'audimat qui va jouer. Par exemple, si les gens font un journal très virulent, ou je sais pas, mais qui va plaire au public, et il dit les choses sincèrement, honnêtement, et certes, il va faire de l'audience, et les annonceurs, ils ont besoin
aussi d'annoncer. Oui, bien sûr, bien sûr.
Du coup, ils vont accepter
Oui, mais bon.
Après, je sais pas, en fait, la pression aussi.
C'est difficile. Sinon, pour en revenir à l'internaute qui est source d'information, oui, c'est vrai. L'internaute est source d'information. Effectivement, le cas de Sarkozy au salon de l'agriculture, etc. Personne n'avait ce dialogue, cette image filmée. Et donc, effectivement, ça, c'est aussi une espèce de révolution dans l'information, c'est-à-dire que... Mais ça, on le savait déjà. C'est-à-dire que... On le savait déjà. Quand vous allez sur un fait divers, un journaliste de quotidien, régional, ou national, même, enfin, peu importe, vous allez sur un fait divers, un accident, etc. Le journaliste, il fait quoi? Il interview ceux qui sont là, les témoins. Donc, à l'époque, il n'est pas internaute, le type qui donne l'information. Il dit, mais moi, j'ai vu, la voiture a renversé le vélo, etc. C'est pas le journaliste qui est source d'information. Il ne fait que répéter l'information que lui a donnée la source du citoyen normal qui... Voilà. Donc là, ce qui change la donne, c'est que maintenant, le citoyen normal, il a le moyen lui-même de la diffuser par Internet, s'il a son téléphone portable, qu'il fait caméra, s'il a sa caméra, etc. C'est ça aussi qui change. Mais la source d'information du citoyen de base, elle existe depuis tout le temps. Sauf que maintenant, lui peut la mettre en ligne, peut l'exploiter. C'est ça qui change. Avant, le type... Il vous racontait, oui, j'ai vu la voiture renverser le vélo, mais c'était pas lui qui allait écrire ça dans le journal. Bon, vous preniez son témoignage. Bon, là-dessus, un exemple. Donc, effectivement, l'internaute peut être source d'information. Après, il y a le traitement de l'information. Bon, sur l'histoire Sarkozy, pauvre con, etc. Enfin, bon, là, c'est du brut, on met le truc. Bon. Mais on vous expliquera, par exemple, si vous êtes un internaute, vous filmez un truc, un accident, vraiment. Vous mettez le truc en ligne, et puis vous décidez de raconter. Vous allez raconter quoi? Vous allez voir, vous allez dire, la voiture a percuté le cycliste, etc. Bon. Sur la formulation, vous pouvez obtenir de graves problèmes. Parce que vous, c'est ce que vous aurez vu, vous allez imputer la responsabilité à la voiture. En termes juridiques, c'est pas aussi simple que ça, en termes de constat de police, de ceci et de cela. À l'école de journalisme, enfin, quand vous commencez, après l'école de journalisme, dans un quotidien, vous commencez par faire le fait divers, comme ça. Et on vous donne une recommandation de base. Ne jamais, dans le récit que vous faites, plus un événement qu'on n'avait pas vu, parce que vous arrivez après l'accident, ne jamais imputer la responsabilité à l'un des deux. Et on ne peut pas dire faute à la voiture, etc., ou c'est la voiture qui a percuté le cycliste, ou c'est des mots. Une collision s'est produite entre. Comme ça. Vous n'avez pas de responsabilité sur ce qui a été écrit. Et c'est pas se dégager de la responsabilité, c'est qu'après tout, on sait pas. témoignages aussi sont évidemment, comme ils sont humains, ils ne sont pas forcément parfaits. Puis après, il y a, bon, vous, sur le même accident, vous ne verrez pas la même chose que votre voisin ou que la personne qui est derrière vous. Hein, je veux dire, bon, et de bonne foi, ce n'est pas que vous allez vouloir imputer la responsabilité à l'un ou l'autre. Bah, sur le coup, vous ne voyez pas la même chose. Donc il faut être extrêmement prudent. Donc ça signifie qu'un internaute, quand il écrit, il faut qu'il soit extrêmement prudent aussi sur ce qu'il écrit. Et ça, il ne l'est pas. Et c'est là où je dis que c'est un problème. Et c'est là où je dis qu'il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de règles professionnelles et déontologiques qui soient respectées. Parce qu'après, ça, alors sur Internet, ça fout le bordel à la puissance exponentielle. Bon, donc c'est là, bien sûr, que vous, c'est bien sûr que vous pouvez être une source d'information. Mais les journalistes, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont sur un événement, etc. Bah, ils prennent les gens qui sont là, qui sont des sources d'information. C'est pas le journaliste qui invente l'information. Quand il arrive sur une guerre, un accident, un spectacle, etc., il va voir les gens, il leur demande de raconter ce que les gens ont vu, ce qu'ils font, etc. Donc la source d'information, c'est la source de tout le monde. La seule différence qui change avec Internet, c'est que là, maintenant, la source d'information lambda, elle peut l'exploiter elle-même. Et c'est pour ça que c'est à la fois intéressant, mais il faut que ça soit bien cadré quand même.
Dernière intervention.
Enfin, moi, je vais aller très vite, en fait. C'est quand même un peu de manière plus grave. Je veux dire qu'un système de production, un mode de production capitaliste dans lequel nous sommes, quand ce système ou ce mode a fait ses citoyens des forçats du travail, des forçats de la consommation, quelle est la marge de manière que la liberté laisse-t-il aux citoyens?
Oui, en plus, il risque de plus y avoir la marche du dimanche maintenant. Donc, c'est vrai que ça va être difficile. Non, mais bon, c'est vrai qu'on est dans un système qui ne pousse pas naturellement à la prise du temps pour l'information. Ça, c'est évident, hein, pour la culture, etc. Bon, on est plutôt dans le productivisme en outrance et la consommation en outrance. Bien sûr, mais bon, donc c'est vrai qu'il y a de moins en moins de temps pour s'informer, je veux dire, profondément, parce qu'on peut toujours regarder, effectivement, dans le train, allant travailler, le métro, 20 minutes, mais ça n'a pas l'air de satisfaire madame, je pense qu'elle n'est pas la seule, bon, voilà, après, il faut prendre, effectivement, sur soi, bon, bah, c'est... Oui, le mode de vie actuel ne facilite pas. Et en même temps, il produit aussi des supports d'information. Donc, il faut que ça soit ces supports qui soient à la hauteur. On a tous les moyens, si on veut. Mais bon...
C'est un effort un peu difficile possible.
Oui, c'est un effort difficile. Mais vous savez, au 19e siècle, les types qui travaillaient 12 heures par jour, à l'époque de Raspail, quand on revient à cette époque-là, je veux dire, quand ils rentraient chez eux, ils picolaient parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, ils ne s'informaient pas beaucoup. Hein. Je veux dire, franchement, on peut quand même davantage s'informer, y compris dans les classes populaires maintenant, qu'à cette époque-là. Il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de manipulation totale, je veux dire, mais comme on le disait en début de cette réunion, il faut aussi que les gens fassent aussi un peu un effort. Alors, c'est vrai que c'est pas idéal, mais quand même, je veux dire, davantage de possibilités qu'il y a un siècle.
Je voulais
vous poser
une question. Le livre que vous avez fait, vous n'avez pas eu pression quand vous demandez de partir de la Dépêche du Midi?
Non, j'ai pas eu pression de parler de partir de la Dépêche du Midi. D'abord parce qu'il est en plus en grande partie consacré à la télévision. Par contre, j'ai pas eu beaucoup de télévision. je peux vous dire que il y a eu un élément déclencheur, c'est qu'il y a eu un papier dans le Canard enchaîné qui reprenait ce que je disais sur Jean-Pierre Elkabbach, les pressions, la manière de fonctionner sur France.
C'est pas un portrait flatteur de certains politiques.
Qu'est-ce qu'il reprenait? Quelle anecdote? Rachid Darab.
Voilà, c'est ça. C'était la petite note, que j'avais trouvée dans les archives Balladur. Je pense que Edouard Balladur n'est pas prêt de rouvrir ses archives des journalistes, parce que... En plus, il se trouve que j'ai trouvé des choses que je n'imaginais pas trouver, bon, qui ont été laissées là, parce que les gens sont dit, bon, après tout... Et donc, c'était, il y avait des notes sur les, de son conseiller en audiovisuel, qui est maintenant le directeur de l'AFP, d'ailleurs, et qui faisait des notes de communication auprès de Balladur et auprès d'un certain nombre de présentateurs de télévision, enfin de lettres qu'il envoyait auprès d'un certain nombre de journalistes responsables d'émissions, notamment La Marche du Siècle, Cavada, et dans lequel il donnait quasiment le déroulé de l'émission qu'il souhaiterait voir faite avec Édouard Balladur. Bon, alors il se trouve que cette émission n'a pas eu lieu, parce qu'il y a quand même aussi, il faut quand même le dire, des journalistes qui résistent. Bon, il ne faut pas croire que tout le monde se couche. Et même maintenant, Sarkozy ne fait pas non plus totalement ce qu'il veut à la télévision. Il a trouvé avec Carolis et Duhamel un couple qui lui résiste sur un certain nombre de trucs, et un bouquin qui est sorti récemment qui montre ça très bien. Bon, enfin, quand même. Mais donc moi, j'ai publié dans ce livre, et c'est là où on démontre combien sont préparées les émissions politiques, parce que celle-là dont je parle n'a pas eu lieu, mais il y en a d'autres qui ont eu lieu. Bon. Et quand vous voyez comment ces conseillers ministériels préparent ces émissions politiques, envoient les lettres aux présentateurs en disant « Voilà, ça serait bien qu'on fasse telle émission sur Édouard Balladur, il faudrait traiter tel sujet, vous pourriez faire tel reportage, ce qui permettrait au Premier ministre d'intervenir par la suite, de développer sa politique. » Bon, on est là, on est parfaitement dans la technique de la coproduction et la connivence politique médiatique. Quand ces émissions n'ont pas lieu, très bien, c'est qu'il y a eu résistance quelque part, quand elles ont lieu, on peut quand même s'interroger sur la part de liberté de manœuvre des journalistes qui se mesurent chèrement. Chèrement, parce que les conseillers en communication, là, techniquement, c'est très très bien fait. Très très bien fait. Hein. La note de communication sur l'émission de La Marche du Siècle, s'il avait eu lieu, il n'avait rien à dire. Hein. Cavada, il n'avait plus qu'à s'asseoir, envoyer ses équipes, et Matignon avait fait l'émission. Hein. Il n'y avait pas de problème. Bon. Donc moi, quand j'ai publié ces notes avec le petit carton dans lequel, effectivement, une des attachées de presse donnait par écrit, en plus, ça c'est pas très habile, ces instructions en disant il faut embaucher un tel, il faut virer tel autre, ceci et cela. Bon, manifestement, ce type de carton n'est pas arrivé à son destinataire puisque je les ai trouvés dans les archives Balladur, donc il n'est pas arrivé à Jean-Pierre de Cabache. Sauf qu'on sait très bien que, bon, on peut donner les mêmes instructions, les mêmes consignes par téléphone. Alors, par contre, ce que j'ai eu là, à partir du moment où Canard Enchaîné a publié papier sur mon bouquin, relevant ce passage, dans la demi-heure qui suit, El Kabach a téléphoné à Actes Sud pour avoir le livre, pour savoir exactement de quoi il retournait. Et comme ça a été relayé par Bakchich, justement, j'ai eu dans l'après-midi qui a suivi un coup de téléphone du bras droit de Bazir, qui était le directeur de cabinet de Balladur. Et ce type m'a dit, monsieur, m'a pris le haut, me dit non, mais monsieur, comment avez-vous eu ces documents? Est-ce que vous avez le droit de publier, etc. J'ai dit, écoutez, on ne rentre pas dans les archives d'un Premier ministre aux archives nationales par effraction. Vous doutez bien que si j'ai eu accès à ces archives, je ne pensais pas d'ailleurs trouver les documents que j'ai trouvés. D'ailleurs, j'avais été le premier surpris, mais le premier satisfait. Je lui dis, c'est parce que tout simplement, M. Balladur m'a donné l'autorisation d'accéder à ses archives. Ce qui a clos la conversation, parce que le team ne savait plus quoi me répondre. Mais à la suite de ça, bon, je donne les noms, je n'ai fait que reproduire les noms qui étaient cités par attaché de presse. Il y en a qui devaient gicler, d'autres qui devaient être embauchés, bon, des jugements de valeur sur les uns ou les autres. Bon, ce qui s'est produit après... publication sur Bakchich, c'est que les journalistes qui étaient visés m'ont téléphoné parce que il y en a pour certains qui ont enfin compris pourquoi ils avaient été mis au placard. Bon, ils s'en doutaient un peu, mais bon, là, ça leur a confirmé un peu ce qu'ils subodoraient, tout en nuançant quand même la chose en disant que toutes les consignes qui étaient données sur ce petit carton n'ont pas été exécutées quand même. Bon, mais il y en a certaines, oui. Ben, certaines, oui. Bon, donc ça reflétait quand même assez bien un certain climat. Et même Rachid Arab, qui était particulièrement concerné, qui est maintenant on sait à ça, que je ne connaissais pas, parce que moi, sur les journalistes qui sont cités sur ce petit Bristol, je n'en connaissais qu'un, personnellement. Donc les autres, je les connaissais de les avoir vus à la télé, mais bon, je n'ai aucun compte, ni personnel, ni rien à régler avec ces gens-là. Ce n'était pas du tout. Moi, j'ai publié ça parce que c'était une information, bien sûr. Et donc, ces gens-là m'ont appelé, qui ne me connaissaient pas, en me disant « Mais c'est vrai, c'est exact, etc. » Oui, bon, et ça ne les a pas totalement surpris. Et comme par hasard, alors, je ne veux pas dire que... Ça serait peut-être assez immodeste de ma part, mais comme par hasard, il y a une journaliste sur laquelle l'attaché de presse porte un jugement de valeur assez négatif, et qui était à l'époque sur la 2, et qui a été mutée, comme par hasard, à ce moment-là, sur la 3, qui n'est pas une promotion en termes journalistiques, c'est peut-être un peu difficile à dire, mais pas flatteur pour FR3, mais c'est vécu comme ça, au moins par les intéressés. Et cette journaliste qui avait totalement disparu, qui était sur France 3, comme par hasard, a fait partie, 15 jours après la sortie de ça, des journalistes qui ont été sélectionnés pour interviewer Sarkozy à l'Élysée. Bon, alors qu'elle avait été elle avait été mutée de France 2 à France 3, parce qu'à l'époque des années 90, dans les années 90, elle avait fait un reportage qui avait fortement déplu sur Sarkozy, qui était ministre du budget. Sarkozy n'avait pas du tout accepté. Donc du coup, les baladuriens ont dit, on va sanctionner. Bon, voilà. Et ça, c'est elle qui me l'a dit quand elle m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, mais oui, de toute manière, ça ne m'étonne pas, puisque je savais que j'avais déplu à Sarkozy à ce moment-là. Et que, voilà. Sauf que... s'attendait pas, moi non plus d'ailleurs, à ce que 15 jours après, comme par hasard, elle ressorte du chapeau pour... Et cela dit, je me suis aperçu, et ça je ne l'ai pas mesuré quand je l'ai publié, je me suis aperçu que le fait d'avoir publié cette petite note avait rouvert dans l'esprit de ces journalistes-là, des cicatrices qui manifestement n'étaient pas vraiment refermées, ils avaient très mal vécu leur mise au placard, à la retraite. Et donc, le fait que ça ressorte comme ça publiquement, brutalement, alors qu'ils ne s'y attendaient pas, de notre côté, je n'avais pas envie de les prévenir parce que, après, enclencher un mouvement non, on ne les publiait pas, etc. Bon, c'était quand même intéressant de publier parce que ça montrait comment, au moins au plus haut niveau au pouvoir, on considère les journalistes et on voudrait que marche l'information et la manière dont on voudrait qu'elle marche. Bon. Mais ça, je n'avais pas mesuré que ça pourrait les bouleverser à ce point-là. Parce qu'après, ils ont tenu à me voir, que je leur explique, mais cette note existe vraiment, oui. Bon, je ne peux pas la publier, je ne peux pas la reproduire, parce que ça fait partie des documents qui sont confidentiels, c'est-à-dire qui ne peuvent être accessibles au public qu'à partir du moment où la personne... concerné par les archives, donne son autorisation. Donc je ne pouvais pas photocopier et la publier, sinon je l'aurais fait. Parce qu'après, on m'a reproché, oui, mais tu as peut-être bidonné. Non, aucune raison de me donner ça, puisque de toute manière, je ne les connaissais pas, les gens. Apparemment. Mais par contre, les intéressés, ils ont bien vu que ce n'était pas du bidon. Et ils étaient quand même un peu sidérés de voir que... Parce que c'est toujours comme ça, je veux dire, on sait que ça existe. Mais quand on est confronté... de visu à la réalité qui vous touche personnellement, c'est encore plus fort, quoi. Et 15 ans après, quand ça ressurgit, ça ramène à un passé douloureusement vécu. Bon, et ça, c'est vrai que sur le plan humain, je ne l'ai pas mesuré. Je ne sais pas, d'ailleurs, quelle est la méthode qu'il faudrait utiliser, parce que si vous les prévenez...
Oui, c'est les rassurer sur leur compétence professionnelle.
Oui, mais c'est ce que je leur ai dit. Je veux dire... À la limite, c'est plutôt flatteur. Je viens de voir que, vous n'étiez pas dans les bons papiers de ces gens-là, parce que finalement, vous avez plutôt fait votre métier. C'est, en fait, ce qu'on vous reprochait, c'est d'avoir fait votre métier.
Mais c'est ça qui est quand même très
aimé. Merci,
on va clore. Un ou deux bouquins, s'il y en a qui veulent.
Ouais.
pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Oh non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout.
Ah, ça va passer à la radio.
OTORADIO, Autoradio.